In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Chapitre 9 de Alice au Pays des Merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, traduit par Henri Buet, chapitre 9. Histoire de la fausse tortue. Vous ne sauriez croire combien je suis heureuse de vous voir, ma bonne vieille fille, dit la duchesse, passant amicalement son bras sous celui d'Alice, et elles s'éloignèrent ensemble. Alice était bien contente de la trouver de si bonne humeur et pensait en elle-même que c'était peut-être le poivre qui l'avait rendue si méchante lorsqu'elles se rencontrèrent dans la cuisine. « Quand je serai duchesse, moi, » se dit-elle, d'un ton qui exprimait peu d'espérance cependant, « je n'aurai pas de poivre dans ma cuisine, pas le moindre grain. La soupe peut très bien s'en passer. Ça pourrait bien être le poivre qui échauffe la bile des gens, » continua-t-elle, enchantée d'avoir fait cette découverte. Ça pourrait bien être le vinaigre qui les aigrit, la camomille qui les rend amères, et le sucre d'orge et d'autres choses du même genre qui adoucissent le caractère des enfants. Je voudrais bien que tout le monde sût cela. On ne serait pas si chiche de sucrerie, voyez-vous. » Elle avait alors complètement oublié la duchesse et tressaillit en entendant sa voix tout près de son oreille. « Vous pensez à quelque chose, ma chère petite, et cela vous fait oublier de causer. » Je ne puis pas vous dire en ce moment quelle est la morale de ce fait, mais je m'en souviendrai tout à l'heure. » « Peut-être n'y en a-t-il pas ?» se hasarda de dire Alice. « Bah, bah, mon enfant !» dit la duchesse. « Il y a une morale à tout, si seulement on pouvait la trouver !» Et elle se serra plus près d'Alice en parlant. Alice n'aimait pas trop qu'elle se tînt si près d'elle, d'abord parce que la duchesse était très laide, et ensuite parce qu'elle était juste assez grande pour appuyer son menton sur l'épaule d'Alice, et c'était un menton très désagréablement pointu. Pourtant, elle ne voulait pas être impolie, et elle supporta cela de son mieux. « La partie va un peu mieux maintenant, » dit-elle, afin de soutenir la conversation. « C'est vrai, » dit la duchesse. « Et la morale en est ? Oh, c'est l'amour, l'amour qui fait aller le monde à la ronde !» « Quelqu'un a dit, » murmura Alice, « que c'est quand chacun s'occupe de ses affaires que le monde n'en va que mieux. »« Eh bien, cela signifie presque la même chose, » dit la duchesse, qui enfonça son petit menton pointu dans l'épaule d'Alice en ajoutant, « et la morale en est, un chien vaut mieux que de gros rats. » « Comme elle aime à trouver des morales partout, » pensa Alice. « Je parie que vous vous demandez pourquoi je ne passe pas mon bras autour de votre taille, » dit la duchesse après une pause. « La raison en est que je ne me fie pas trop à votre flamand. Voulez-vous que j'essaie ?»« Il pourrait mordre, » répondit Alice, qui ne se sentait pas la moindre envie de faire l'essai proposé. « C'est bien vrai, » dit la duchesse. « Les flamands et la moutarde mordent tous les deux, et la morale en est, qui se ressemble, s'assemble. » « Seulement, la moutarde n'est pas un oiseau, » répondit Alice. « Vous avez raison, comme toujours, » dit la duchesse. « Avec quelle clarté vous présentez les choses !»« C'est un minéral, je crois, » dit Alice. « Assurément, » dit la duchesse, qui semblait prête à approuver tout ce que disait Alice. « Il y a une bonne mine de moutarde près d'ici. La morale en est qu'il faut faire bonne mine à tout le monde !» « Oh, je sais !» s'écria Alice, qui n'avait pas fait attention à cette dernière observation. « C'est un végétal. Ça n'en a pas l'air, mais c'en est un. »« Je suis tout à fait de votre avis, » dit la duchesse. « Et la morale en est ? Soyez ce que vous voulez paraître. Ou, si vous voulez que je le dise plus simplement, ne vous imaginez jamais de ne pas être autrement que ce qu'il pourrait sembler aux autres, que ce que vous étiez ou auriez pu être n'était pas autrement que ce que vous aviez été, leur aurait paru être autrement. Il me semble que je comprendrais mieux cela, dit Alice fort poliment, si je l'avais par écrit, mais je ne peux pas très bien le suivre comme vous le dites. Cela n'est rien auprès de ce que je pourrais dire si je le voulais, répondit la duchesse d'un ton satisfait. Je vous en prie, ne vous donnez pas la peine d'allonger davantage votre explication, dit Alice. Oh, ne parlez pas de ma peine, dit la duchesse. Je vous fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà un cadeau qui n'est pas cher, pensa Alice. Je suis bien contente qu'on ne fasse pas de cadeau d'anniversaire comme cela. Mais elle ne se hasarda pas à le dire tout haut. Encore à réfléchir ? Demanda la duchesse avec un nouveau coup de son petit menton pointu. J'ai bien le droit de réfléchir, dit Alice sèchement, car elle commençait à se sentir un peu ennuyée. À peu près le même droit, dit la duchesse, que les cochons de voler et la mo... Mais ici, au grand étonnement d'Alice, la voix de la duchesse s'éteignit au milieu de son mot favori, morale, et le bras qui était passé sous le sien commença de trembler. Alice leva les yeux et vit la reine en face d'elle, les bras croisés, sombre et terrible, comme un orage. « Voilà un bien beau temps, votre majesté !» fit la duchesse d'une voix basse et tremblante.
« Je vous en préviens !» cria la reine, trépignant tout le temps. « Hors d'ici, ou à bas la tête, et cela en moins de rien. Choisissez !»
La duchesse eut bientôt fait son choix, elle disparut en un clin d'œil.
« Continuons notre partie !» dit la reine à Alice,
et Alice, trop effrayée pour souffler mot, la suivit lentement vers la pelouse. Les autres invités, profitant de l'absence de la reine, se reposaient à l'ombre, mais sitôt qu'ils la virent, ils se hâtèrent de retourner au jeu, la reine leur faisant simplement observer qu'un instant de retard leur coûterait la vie. Tant que dura la partie, la reine ne cessa de se quereller avec les autres joueurs et de crier
« Qu'on coupe la tête à celui-ci !» Qu'on coupe la tête à celle-là!
Ceux qu'elle condamnait étaient arrêtés par les soldats qui, bien entendu, avaient à cesser de servir d'arche, de sorte qu'au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus d'arche, et tous les joueurs, à l'exception du roi, de la reine et d'Alice, étaient arrêtés et condamnés à avoir la tête tranchée. Alors, la reine cessa le jeu, toute hors d'haleine, et dit à Alice :
Avez-vous vu la fausse tortue?
Non, dit Alice. « Je ne sais même pas ce que c'est qu'une fausse tortue. »«
C'est ce dont on fait la soupe à la fausse tortue, »
dit la reine. « Je n'en ai jamais vu, et c'est la première fois que j'en entends parler, » dit Alice.
« Eh bien, venez, » dit la reine, « et elle vous contera son histoire. »
Comme elles s'en allaient ensemble, Alice entendit le roi dire à voix basse à toute la compagnie.
« Vous êtes tous graciés. »
« Allons, voilà qui est heureux. » se dit-elle en elle-même, car elle était toute chagrine du grand nombre d'exécutions que la reine avait ordonnées. Elles rencontrèrent bientôt un griffon, étendu au soleil et dormant profondément. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un griffon, regardez l'image.
« Debout, paresseux !» dit la reine. « Et menez cette petite demoiselle voir la fausse tortue et l'entendre raconter son histoire. Il faut que je m'en retourne pour veiller à quelques exécutions que j'ai ordonnées. »
Et elle partit, laissant Alice seule avec le griffon. La mine de cet animal ne plaisait pas trop à Alice, mais tout bien considéré, elle pensa qu'elle ne courait pas plus de risques en restant auprès de lui qu'en suivant cette reine farouche. Le griffon se leva et se frotta les yeux, puis il guetta la reine jusqu'à ce qu'elle fût disparue, et il se mit à ricaner.
« Quelle farce !»
dit le griffon, moitié à part soi, moitié à Alice. « Quelle est la farce ?» demanda Alice.
« Elle !» dit le griffon. « C'est une idée qu'elle se fait. Jamais on n'exécute personne, vous comprenez ? Venez donc !»
Tout le monde ici dit « Venez donc !» pensa Alice, en suivant lentement le griffon. « Jamais de ma vie on ne m'a fait aller comme cela. Non, jamais !» Ils ne firent pas beaucoup de chemin, avant d'apercevoir dans l'éloignement la fausse tortue assise, triste et solitaire, sur un petit récif, et à mesure qu'ils approchaient, Alice pouvait l'entendre, qui soupirait comme si son cœur allait se briser. Elle la plaignait sincèrement. « Quel est donc son chagrin ? » demanda-t-elle au griffon, et le griffon répondit, presque dans les mêmes termes qu'auparavant.
« C'est une idée qu'elle se fait. Elle n'a point de chagrin, vous comprenez ? Venez donc !»
Ainsi, ils s'approchèrent de la fausse tortue, qui les regarda avec de grands yeux pleins de larmes, mais ne dit rien.
« Cette petite demoiselle, dit le griffon, veut savoir votre histoire. »
« Je vais la lui raconter, dit la fausse tortue d'un ton grave et sourd. « Asseyez-vous tous deux, et ne dites pas un mot avant que j'aie fini. »
Ils s'assirent donc, et pendant quelques minutes, personne ne dit mot. Alice pensait « Je ne vois pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. » Mais elle attendit patiemment.
« Autrefois, dit enfin la fausse tortue, j'étais une vraie tortue. »
Ces paroles furent suivies d'un long silence, interrompu seulement de temps à autre par cette exclamation du griffon et les soupirs continuels de la fausse tortue. Alice était sur le point de se lever et de dire « Merci de votre histoire intéressante », mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il devait sûrement y en avoir encore à venir. Elle resta donc tranquille, sans rien dire.
« Quand nous étions petits, continua la fausse tortue d'un ton plus calme, quoiqu'elle laissât encore de temps à autre échapper un sanglot. « Nous allions à l'école au fond de la mer. La maîtresse était une vieille tortue, nous l'appelions Kélone. »
« Et pourquoi l'appeliez-vous Kélone, si ce n'était pas son nom ?»«
Parce qu'on ne pouvait s'empêcher de s'écrier en la voyant « Quel long nez !» dit la fausse tortue d'un ton fâché. « Vous êtes vraiment bien borné. »
« Vous devriez avoir honte de faire une question si simple !»
ajouta le griffon. Et puis tous deux gardèrent le silence, les yeux fixés sur la pauvre Alice qui se sentait prête à rentrer sous terre. Enfin, le griffon dit à la fausse tortue
« En avant, camarade, tâchez d'en finir aujourd'hui !»
Et elle continua en ces termes.
« Oui, nous allions à l'école dans la mer, bien que cela vous étonne. »«
Je n'ai pas dit cela, » interrompit Alice.
« Vous l'avez dit, » répondit la fausse tortue.
« Taisez-vous donc !»
ajouta le griffon avant qu'Alice pût reprendre la parole. La fausse tortue continua.
« Nous recevions la meilleure éducation possible. » « Au fait, nous allions tous les jours à l'école. »«
Moi aussi, j'y ai été tous les jours, » dit Alice. « Il n'y a pas de quoi être si fière. »«
Avec des... en sus, »
dit la fausse tortue avec quelque inquiétude.
« Oui, » dit Alice, « nous apprenions l'italien et la musique en sus. »«
Et le blanchissage ?»
dit la fausse tortue.
« Non, certainement, » dit Alice indignée.
« Ah !» « Alors votre pension n'était pas vraiment des bonnes, »
dit la fausse tortue comme soulagée d'un grand poids.
« Eh bien, à notre pension, il y avait au bas du prospectus l'italien, la musique et le blanchissage en sus. »«
Vous ne deviez pas en avoir grand besoin puisque vous viviez au fond de la mer, » dit Alice.
« Je n'avais pas les moyens de l'apprendre. » dit en soupirant la fausse tortue. « Je ne suivais que les cours ordinaires. »«
Qu'est-ce que c'était ?» demanda Alice.
« À luire et à médire, cela va sans dire, » répondit la fausse tortue. « Et puis les différentes branches de l'arithmétique, l'ambition, la distraction, l'enjolification et la dérision. »
« Je n'ai jamais entendu parler d'enjolification, » se hasarda de dire Alice. « Qu'est-ce que c'est ?» Le griffon leva les deux pattes en l'air en signe d'étonnement.
« Vous n'avez jamais entendu parler d'enjolir, » s'écria-t-il. « Vous savez ce que c'est que embellir, je suppose ?»«
Oui, » dit Alice en hésitant, « cela veut dire rendre une chose plus belle. »«
Eh bien, » continua le griffon, « si vous ne savez pas ce que c'est que enjolir, » « Vous êtes vraiment niaise !»
Alice ne se sentit pas encouragée à faire de nouvelles questions là-dessus. Elle se tourna donc vers la fausse tortue et lui dit « Qu'apprenez-vous encore ?»«
Eh bien, il y avait le grimoire, » répondit la fausse tortue en comptant sur ses battoirs. « Le grimoire ancien et moderne avec la mérographie et puis le dédain. » Le maître de dédain était un vieux congre qui venait une fois par semaine. Il nous enseignait à dédaigner, à esquiver et à feindre à l'huître.
Qu'est-ce que cela ?
Dit Alice. Ah, je ne peux pas vous le montrer, moi, dit la fausse tortue. Je suis trop gênée et le griffon ne l'a jamais appris.
Je n'en avais pas le temps, dit le griffon. Mais j'ai suivi les cours du professeur de langue morte. J'étais un vieux crabe, celui-là.
Je n'ai jamais suivi ses cours, dit la fausse tortue avec un soupir. Il enseignait le larcin et la grève.
C'est ça, dit le griffon en soupirant à son tour,
et ces deux créatures se cachèrent la figure dans leurs pattes.
Combien d'heures de leçons aviez-vous par jour ? Dit Alice vivement pour changer la conversation.
10 heures le premier jour, dit la fausse tortue, 9 heures le second, et ainsi de suite.
Quelle singulière méthode ! S'écria Alice.
C'est pour cela qu'on les appelle leçons,
dit le griffon, parce que nous les laissons là, peu à peu. C'était là pour Alice une idée toute nouvelle. Elle y réfléchit un peu avant de faire une autre observation. Alors le 11e jour devait être un jour de congé ?
Assurément, répondit la fausse tortue.
Et comment vous arrangiez-vous le 12e jour ? S'empressa de demander Alice.
En voilà assez sur les leçons,
dit le griffon, intervenant d'un ton très décidé. Parlez-lui des jeux maintenant. Fin du chapitre 9. Enregistré par Pauline Latournerie.
Chapitre 10 de Alice au pays de merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Alice au pays de merveilles de Lewis Carroll. Traduit par Henri Buet. Chapitre 10 Le quadrille des homards. La fausse tortue soupira profondément et passa le dos d'une de ses nageoires sur ses yeux. Elle regarda Alice et s'efforça de parler, mais les sanglots étouffèrent sa voix pendant 1 ou 2 minutes. « On dirait qu'elle a un os dans le gosier, » dit le griffon, et il se mit à la secouer et à lui taper dans le dos. Enfin, la fausse tortue retrouva la voix, et tandis que des grosses larmes coulaient le long de ses joues, elle continua. « Peut-être n'avez-vous pas beaucoup vécu au fond de la mer ?»
« Non, » dit Alice.
« Et peut-être ne vous a-t-on jamais présenté à un homard ?» Alice allait dire « J'en ai goûté une fois, » mais elle se reprit vivement et dit « Non, jamais. » « De sorte que vous ne pouvez pas du tout vous figurer quelle chose délicieuse c'est qu'un quadrille de homard. »
« Non, vraiment, » dit Alice. « Qu'est-ce que c'est que cette danse-là ? »
D'abord, dit le griffon, on se met en rang le long des bords de la mer.
On forme 2 rangs, cria la fausse tortue. Des phoques, des tortues et des saumons, et ainsi de suite. Puis lorsqu'on a débarrassé la côte des gelées de mer, cela prend ordinairement longtemps, dit le griffon. On avance 2 fois.
Chacun ayant un homard pour danser, cria le griffon.
Cela va sans dire, dit la fausse tortue.
Avancez 2 fois et balancez, changez des homards et revenez dans le même ordre, continua le griffon.
Et puis, vous comprenez, continua la fausse tortue, vous jetez les homards, cria le griffon en faisant un bond en l'air, aussi loin à la mer que vous le pouvez.
Vous nagez à leur poursuite, cria le griffon. Vous faites une cabriole dans la mer, cria la fausse tortue en cabriolant de tous côtés comme une folle. « Changez encore des homards !» hurla le griffon de toutes ses forces. « Revenez à terre, et c'est là la première figure !» dit la fausse tortue, baissant tout à coup la voix. Et ces 2 êtres, qui pendant tout ce temps avaient bondi de tous côtés comme des fous, se rassirent bien tristement et bien posément, puis regardèrent Alice.
« Cela doit être une très jolie danse, » dit timidement Alice.
« Voudriez-vous voir un peu comment ça se danse ?» dit la fausse tortue.
« Cela me ferait grand plaisir, » dit Alice.
« Allons, essayons la première figure, » dit la fausse tortue au griffon.
nous pouvons la faire sans homard. Vous comprenez ? Qui va chanter ? Oh, chantez, vous, dit le griffon. Moi, j'ai oublié les paroles. Ils se mirent donc à danser gravement tout autour d'Alice, lui marchant de temps à autre sur les pieds quand ils approchaient trop près et remuant leurs pattes de devant pour marquer la mesure, tandis que la fausse tortue chantait très lentement et très tristement. « Nous n'irons plus à l'eau si tu ne m'avances tôt. Ce marsouin trop pressé va tous nous écraser. Colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons, avant de faire un plongeon. Je ne veux pas danser, je me ferai fracasser. Oh, reprend le merlan, c'est pourtant bien plaisant. Colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons, avant de faire un plongeon. Je ne veux pas plonger, je ne sais pas nager. Le homard et le bateau de sauvetage te tireront de l'eau. Colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons, avant de faire un plongeon. Merci, c'est une danse très intéressante à voir danser, dit Alice enchantée que ce fut enfin fini. Et je trouve cette curieuse chanson du merlan si agréable. Oh, quant au merlan, dit la fausse tortue, vous les avez vus sans doute. Oui, dit Alice, je les ai souvent vus à Adi. Elle s'arrêta tout court. Je ne sais pas où Adi, reprit la fausse tortue, mais puisque vous les avez vus si souvent,
vous devez savoir l'air qu'ils ont.
Je le crois, répliqua Alice en se recueillant. Ils ont la queue dans la bouche et sont tout couverts de mie de pain. « Vous vous trompez à l'endroit de la mie de pain, » dit la fausse tortue. « La mie serait enlevée dans la mer, mais ils ont bien la queue dans la bouche. Et la raison en est que... » Ici la fausse tortue bâilla et ferma les yeux. « Dites-lui-en la raison et tout ce qui s'ensuit, » dit-elle au griffon. « La raison, c'est que les merlans, » dit le griffon, « voulurent absolument aller à la danse avec les homards. Alors on les jeta à la mer. Alors ils eurent à tomber bien loin, bien loin. Alors ils s'entrèrent la queue fortement dans la bouche. Alors ils ne purent plus l'en retirer. Voilà tout. Merci, dit Alice. C'est très intéressant. Je n'en avais jamais tant appris sur le conte de Merlan. Je propose donc, dit le griffon, que vous nous racontiez quelques-unes de vos aventures. Je pourrais vous conter mes aventures à partir de ce matin, dit Alice un peu timidement. Mais il est inutile de parler de la journée d'hier, car j'étais une personne tout à fait différente alors. Expliquez-nous cela, dit la fausse tortue. Non, non, les aventures d'abord, dit le griffon, d'un ton d'impatience. Les explications prennent tant de temps. Alice commença donc à leur conter ses aventures depuis le moment où elle avait vu le lapin blanc pour la première fois. Elle fut d'abord un peu troublée dans le commencement. Les deux créatures se tenaient si près d'elle, une de chaque côté, et ouvraient de si grands yeux et une si grande bouche. Mais elle reprenait courage à mesure qu'elle parlait. Les auditeurs restèrent fort tranquilles jusqu'à ce qu'elle arrivât au moment de son histoire où elle avait eu à répéter à la chenille « Vous êtes vieux, père Guillaume », et où les mots lui étaient venus tout de travers. Et alors la fausse tortue poussa un long soupir et dit « C'est bien singulier. Tout cela est on ne peut plus singulier, » dit le griffon. « Tout de travers, » répéta la fausse tortue d'un air rêveur. « Je voudrais bien l'entendre réciter quelque chose à présent. Dites-lui de s'y mettre. » Elle regardait le griffon comme si elle lui croyait de l'autorité sur Alice. « Debout et réciter. » « C'est la voix du canon, » dit le griffon. « Comme ces êtres-là vous commandent, ils vous font répéter des leçons, » pensa Alice. « Autant voudrait être à l'école. » Cependant, elle se leva et se mit à réciter. Mais elle avait la tête si pleine du quadrille de homard qu'elle savait à peine ce qu'elle disait et que les mots lui venaient tout drôlement. C'est la voix du homard grondant comme la foudre. On m'a trop fait bouillir. Il faut que je me poudre. Puis, les pieds en dehors, prenant la brosse à main, de se faire bien beau vite, il se met en train.
C'est tout différent de ce que je récitais quand j'étais petit, moi, dit le griffon. Je ne l'avais pas encore entendu réciter, dit la fausse tortue, mais cela me fait l'effet d'un fameux galimatias. Alice ne dit rien, elle s'était assise, la figure dans ses mains, se demandant avec étonnement si jamais les choses reprendraient leur cours naturel. « Je voudrais bien qu'on m'expliquât cela, » dit la fausse tortue. « Elle ne peut pas l'expliquer, » dit le griffon vivement. « Continuez, récitez les vers suivants. »« Mais les pieds en dehors ?» continua opiniâtrement la fausse tortue. « Pourquoi dire qu'il avait les pieds en dehors ?»« C'est la première position lorsqu'on apprend à danser, » dit Alice. Tout cela l'embarrassait fort. Et il lui tardait de changer la conversation. « Récitez les vers suivants, » répéta le griffon avec impatience. Ça commence. Passant près de chez lui, Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle fût sûre que les mots allaient lui venir tout de travers. Elle continua donc d'une voix tremblante. « Passant près de chez lui, j'ai vu, ne vous déplaise, une huître et un hibou qui dînaient fort à l'aise. » « À quoi bon répéter tout ce galimatias ?» interrompit la fausse tortue. « Si vous ne l'expliquez pas à mesure que vous le dites, c'est de beaucoup ce que j'ai entendu de plus embrouillant. »« Oui, je crois que vous feriez bien d'en rester là, » dit le griffon. Et Alice ne demanda pas mieux. « Essayerons-nous une autre figure du quadrille de homard ?» continua le griffon. « Ou bien préférez-vous que la fausse tortue vous chante quelque chose ?» Oh, une chanson, je vous prie. Si la fausse tortue veut bien avoir cette obligeance, répondit Alice avec tant d'empressement que le griffon dit d'un air un peu offensé. Chacun son goût. Chante-lui la soupe à la tortue. Eh, camarade! La fausse tortue poussa un profond soupir et commença d'une voix de temps en temps étouffée par les sanglots. « Oh, doux potage, oh, mets délicieux, ah, pour partage, quoi de plus précieux, plongée dans ma soupière, cette vaste cuillère, est un bonheur que me réjouit le cœur. Gibier, volaille, lièvre, dinde, perdreau, rien qui te vaille, pas même les pruneaux. Plongée dans ma soupière, cette vaste cuillère, est un bonheur. Qui me rejouit le cœur. Bis au refrain! Cria le griffon. Et la fausse tortue venait de le reprendre. Quand un cri, le procès va commencer, se fit entendre au loin. Venez donc! Cria le griffon. Et prenant Alice par la main, il se mit à courir, sans attendre la fin de la chanson. Qu'est-ce que c'est que ce procès? Demanda Alice hors d'haleine. Mais le griffon se contenta de répondre « Venez donc !» en courant de plus belle. Tandis que leur parvenait de plus en plus faible, apportée par la brise qui les poursuivait, ses paroles pleines de mélancolie. « Plongée dans ma soupière, cette vaste cuillère est un bonheur qui me réjouit le cœur. » Fin du chapitre 10.
Chapitre 11 de Alice au Pays des Merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, traduit par Henri Buet. Chapitre 11. Qui a volé les tartes ? Le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône, entourés d'une nombreuse assemblée. Toutes sortes de petits oiseaux et d'autres bêtes, ainsi que le paquet de cartes tout entier. Le valet, chargé de chaînes, gardé de chaque côté par un soldat, se tenait debout devant le trône et près du roi se trouvait le lapin blanc, tenant d'une main une trompette et de l'autre un rouleau de parchemin. Au beau milieu de la salle était une table sur laquelle on voyait un grand plat de tartes. Ces tartes semblaient si bonnes que cela donna faim à Alice rien que de les regarder. « Je voudrais bien qu'on se dépêchât de finir le procès, » pensa-t-elle, « et qu'on fît passer les rafraîchissements. » Mais cela ne paraissait guère probable, aussi se mit-elle à regarder tout autour d'elle pour passer le temps. C'était la première fois qu'Alice se trouvait dans une cour de justice, mais elle en avait lu des descriptions dans les livres, et elle fut toute contente de voir qu'elle savait le nom de presque tout ce qu'il y avait là. « Ça, c'est le juge, » se dit-elle. « Je le reconnais à sa grande perruque. » Le juge, disons-le en passant, était le roi, et comme il portait sa couronne par-dessus sa perruque, regardez le frontispice si vous voulez voir comment il s'était arrangé. Il n'avait pas du tout l'air d'être à son aise, et cela ne lui allait pas bien du tout. « Et ça, c'est le banc du jury, » pensa Alice, « et ces 12 créatures... » Elle était forcée de dire « créature », vous comprenez, car quelques-uns étaient des bêtes et quelques autres des oiseaux. « Je suppose que ce sont les jurés. » Elle se répéta ce dernier mot 2 ou 3 fois, car elle en était assez fière, pensant avec raison que bien peu de filles de son âge savent ce que cela veut dire. Les 12 jurés étaient tous très occupés à écrire sur des ardoises. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» dit Alice à l'oreille du griffon. « Ils ne peuvent rien avoir à écrire avant que le procès soit commencé. »«
Ils inscrivent leur nom, »
répondit de même le griffon,
« de peur de l'oublier avant la fin du procès. »«
Les niais !» s'écria Alice d'un ton indigné. Mais elle se retint bien vite, car le lapin blanc cria
« Silence dans l'auditoire !»
Et le roi, mettant ses lunettes, regarda vivement autour de lui pour voir qui parlait. Alice pouvait voir aussi clairement que si elle eût regardé par-dessus leurs épaules que tous les jurés étaient en train d'écrire « les niais » sur leurs ardoises, et elle pouvait même distinguer que l'un d'eux ne savait pas écrire « niais » et qu'il était obligé de le demander à son voisin. « Leurs ardoises seront dans un bel état avant la fin du procès », pensa Alice. Un des jurés avait un crayon qui grinçait. Alice, vous le pensez bien, ne pouvait pas souffrir cela. Elle fit le tour de la salle, arriva derrière lui et trouva bientôt l'occasion d'enlever le crayon. Ce fut sitôt fait que le pauvre petit juré, c'était Jacques, le lézard, ne pouvait pas s'imaginer ce qu'il était devenu. Après avoir cherché partout, il fut obligé d'écrire avec un doigt tout le reste du jour, et cela était fort inutile, puisque son doigt ne laissait aucune marque sur l'ardoise.
« Héros, lisez l'acte d'accusation !» dit le roi.
Sur ce, le lapin blanc sonna 3 fois de la trompette, et puis, déroulant le parchemin, lut ainsi ce qui suit.
« La reine de cœur fit des tartes. Un beau jour de printemps, le valet de cœur prit les tartes et s'en fut tout content. »
« Délibéré, » dit le roi au juré.
« Pas encore, pas encore, » interrompit vivement le lapin. Il y a bien des choses à faire auparavant.
« Appelez les témoins, » dit le roi.
Et le lapin blanc sonna 3 fois de la trompette et cria
« Le premier témoin !»
Le premier témoin était le chapelier. Il entra, tenant d'une main une tasse de thé et de l'autre une tartine de beurre.
« Pardon, votre majesté, » dit-il, « si j'apporte cela ici, je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. »
« Vous auriez dû avoir fini, » dit le roi. « Quand avez-vous commencé ?»
Le chapelier regarda le lièvre qu'il avait suivi dans la salle, bras dessous, avec le loir.
« Le 14 mars, je crois bien, » dit-il.
« Le 15, » dit le lièvre. « Le 16, » ajouta le loir. « Notez cela, » dit le roi au juré.
Et les jurés s'empressèrent d'écrire les 3 dates sur leurs ardoises, puis en firent l'addition, dont ils cherchèrent à réduire le total en francs et centimes.
« Ôtez votre chapeau !» dit le roi au chapelier.
« Il n'est pas à moi !» dit le chapelier.
« Voler !» s'écria le roi, en se tournant du côté des jurés qui s'empressèrent de prendre note du fait.
« Je les tiens en vente !» ajouta le chapelier comme explication. « Je n'en ai pas à moi, je suis chapelier !»
Ici, la reine mit ses lunettes et se prit à regarder fixement le chapelier qui devint pâle et tremblant.
« Faites votre déposition, dit le roi, et ne soyez pas agité, sans cela je vous fais exécuter sur le champ. »
Cela ne parut pas du tout encourager le témoin. Il ne cessait de passer d'un pied sur l'autre en regardant la reine d'un air inquiet, et dans son trouble, il mordit dans la tasse et en enleva un grand morceau au lieu de mordre dans la tartine de beurre. Juste à ce moment-là, Alice éprouva une étrange sensation qui l'embarrassa beaucoup, jusqu'à ce qu'elle se fût rendue compte de ce que c'était. Elle recommençait à grandir, et elle pensa d'abord à se lever et à quitter la cour, mais toute réflexion faite, elle se décida à rester où elle était tant qu'il y aurait de la place pour elle.
« Ne poussez donc pas comme ça, dit le loir, je puis à peine respirer. »«
Ce n'est pas de ma faute, dit Alice doucement, je grandis. »«
Vous n'avez pas le droit de grandir ici, dit le loir. »«
Ne dites pas de sottises, répliqua Alice plus hardiment, vous savez bien que vous aussi vous grandissez. »
« Oui, mais je grandis raisonnablement, moi, dit le loir, et non de cette façon ridicule. »
Il se leva en faisant la mine et passa de l'autre côté de la salle. Pendant tout ce temps-là, la reine n'avait pas cessé de fixer les yeux sur le chapelier, et comme le loir traversait la salle, elle dit à un des officiers du tribunal
« Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert. »
Sur quoi le malheureux chapelier se mit à trembler si fortement qu'il en perdit ses deux souliers.
« Faites votre déposition, répéta le roi en colère, ou bien je vous fais exécuter, que vous soyez troublé ou non. »«
Je suis un pauvre homme, votre majesté, fit le chapelier d'une voix tremblante, et il n'y avait guère qu'une semaine ou deux que j'avais commencé à prendre mon thé, et avec ça les tartines devenaient si minces, et les dragées du thé... »
Les dragées de quoi ? Dit le roi.
Ça a commencé par le thé, répondit le chapelier.
Je vous dis que dragée commence par un dé, cria le roi vivement. Me prenez-vous pour un âne ? Continuez.
Je suis un pauvre homme, continua le chapelier. Et les dragées et les autres choses me firent perdre la tête. Mais le lièvre dit...
C'est faux !
S'écria le lièvre, se dépêchant de l'interrompre.
« C'est vrai !» cria le chapelier.
« Je le nie !» cria le lièvre. « Il le nie !» dit le roi. « Passez là-dessus »
« Eh bien, dans tous les cas, le loir dit... »
continua le chapelier, regardant autour de lui pour voir s'il nierait aussi, mais le loir ne nia rien, car il dormait profondément.
« Après cela, » continua le chapelier, « je me coupais d'autres tartines de beurre. »«
Mais que dit le loir ?» demanda un des jurés.
C'est ce que je ne peux pas me rappeler, dit le chapelier.
Il faut absolument que vous vous le rappeliez, fit observer le roi, ou bien je vous fais exécuter.
Le malheureux chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine de beurre et mit un genou en terre.
Je suis un pauvre homme, votre majesté,
commença-t-il.
Vous êtes un très pauvre orateur, dit le roi.
Ici, un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement réprimé par un des huissiers. Comme ce mot est assez difficile, je vais vous expliquer comment cela se fit. Ils avaient un grand sac de toile qui se fermait à l'aide de deux ficelles attachées à l'ouverture. Dans ce sac, ils firent glisser le cochon d'Inde la tête la première, puis ils s'assirent dessus.
« Je suis contente d'avoir vu cela, » pensa Alice.
« J'ai souvent lu dans les journaux à la fin des procès. » Il se fit quelques tentatives d'applaudissements qui furent bientôt réprimées par les huissiers, et je n'avais jamais compris jusqu'à présent ce que cela voulait dire.
« Si c'est là tout ce que vous savez de l'affaire, vous pouvez vous prosterner, » continua le roi.
« Je ne puis pas me prosterner plus bas que cela, » dit le chapelier. « Je suis déjà par terre. »«
Alors asseyez-vous, » répondit le roi.
Ici, l'autre cochon d'Inde applaudit et fut réprimé. « Bon. » « Cela met fin au cochon d'Inde, » pensa Alice. « Maintenant, ça va mieux aller. »«
J'aimerais bien aller finir de prendre mon thé, » dit le chapelier, en lançant un regard inquiet sur la reine qui lisait la liste des chanteurs.
« Vous pouvez vous retirer, » dit le roi,
et le chapelier se hâta de quitter la cour sans même prendre le temps de mettre ses souliers.
« Et coupez-lui la tête dehors !» ajouta
la reine, s'adressant à un des huissiers,
mais le chapelier était déjà bien loin avant que l'huissier arrivât à la porte. « Appelez un autre témoin, » dit le roi. L'autre témoin, c'était la cuisinière de la duchesse. Elle tenait la poivrière à la main et Alice devina qui c'était, même avant qu'elle entrât dans la salle, en voyant éternuer tout à coup et tous à la fois les gens qui se trouvaient près de la porte.
« Faites votre déposition, » dit le roi.
« Non, » dit la cuisinière.
Le roi regarda d'un air inquiet le lapin blanc qui lui dit à voix basse.
« Il faut que votre majesté interroge ce témoin-là contradictoirement. »«
Puisqu'il le faut, il le faut, » dit le roi d'un air triste.
Et après avoir croisé les bras et froncé les sourcils en regardant la cuisinière, au point que les yeux lui étaient presque complètement rentrés dans la tête, il dit d'une voix creuse.
« De quoi les tartes sont-elles faites ?»«
De poivre, principalement, » dit la cuisinière.
« De mélasse, » dit une voix endormie derrière elle.
« Saisissez ce loir au collet, » cria la reine.
« Coupez la tête à ce loir, mettez ce loir à la porte, réprimez-le, pincez-le, arrachez-lui ses moustaches !»
Pendant quelques instants, toute la cour fut sans dessus-dessous pour mettre le loir à la porte, et quand le calme fut rétabli, la cuisinière avait disparu.
« Cela ne fait rien, » dit le roi, comme soulagé d'un grand poids. « Appelez le troisième témoin. »
Et il ajouta à voix basse en s'adressant à la reine, « Vraiment, mon ami, il faut que vous interrogiez cet autre témoin. Cela me fait trop mal au front. »
Alice regardait le lapin blanc, tandis qu'il tournait la liste dans ses doigts, curieuse de savoir quel serait l'autre témoin.
« Car les dépositions ne prouvent pas grand-chose jusqu'à présent, » se dit-elle.
Imaginez sa surprise quand le lapin blanc cria, du plus fort de sa petite voix criarde,
« Alice !»
Fin du chapitre 11, enregistré par Pauline Latournerie.
Chapitre 12 de Alice au pays des merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, traduit par Henri Buet. Chapitre 12. Déposition d'Alice. Voilà! Cria Alice, oubliant tout à fait dans le trouble du moment combien elle avait grandi depuis quelques instants, et elle se leva si brusquement qu'elle accrocha le banc des jurés avec le bord de sa robe et le renversa avec tous ses occupants sur la tête de la foule qui se trouvait au-dessous, et on les vit se débattant de tous côtés comme les poissons rouges du vase qu'elle se rappelait avoir renversé par accident la semaine précédente. « Oh, je vous demande bien pardon !» s'écria-t-elle toute confuse, et elle se mit à les ramasser bien vite, car l'accident arrivé au poisson rouge lui trottait dans la tête, et elle avait une idée vague qu'il fallait les ramasser tout de suite et les remettre sur les bancs, sans quoi ils mourraient. « Le procès ne peut continuer, » dit le roi d'une voix grave, « avant que les jurés soient tous à leur place. Tous » répéta-t-il avec emphase, en regardant fixement Alice. Alice regarda le banc des jurés et vit que dans son empressement, elle y avait placé le lézard la tête en bas et le pauvre petit être remuait la queue d'une triste façon dans l'impossibilité de se redresser. Elle l'eut bientôt retourné et replacé convenablement. « Non que cela soit bien important, se dit-elle, car je pense qu'il serait tout aussi utile au procès la tête en bas qu'autrement. » Sitôt que les jurés se furent un peu remis de la secousse, qu'on eût retrouvé et qu'on leur eût rendu leurs ardoises et leurs crayons, ils se mirent fort diligemment à écrire l'histoire de l'accident, à l'exception du lézard qui paraissait trop accablé pour faire autre chose que demeurer la bouche ouverte, les yeux fixés sur le plafond de la salle. « Que savez-vous de cette affaire-là » demanda le roi à Alice. « Rien, » répondit-elle. « Rien absolument, » insista le roi. « Rien absolument, » dit Alice. « Voilà qui est très important, » dit le roi, se tournant vers les jurés. Ils allaient écrire cela sur leurs ardoises quand le lapin blanc interrompant. « Peu important, veut dire votre majesté sans doute, dit-il d'un ton très respectueux, mais en fronçant les sourcils et en lui faisant des grimaces. Peu important, bien entendu, c'est ce que je voulais dire, répliqua le roi avec empressement. Et il continua de répéter à demi-voix, très important, peu important, peu important, très important, comme pour essayer lequel des deux était le mieux sonnant. Quelques-uns des jurés écrivirent « très important », d'autres « peu important ». Alice voyait tout cela car elle était assez près d'eux pour regarder sur leurs ardoises. « Mais cela ne fait absolument rien », pensa-t-elle. À ce moment-là, le roi, qui pendant quelque temps avait été fort occupé à écrire dans son carnet, cria « silence !» et lut sur son carnet « règle 42 ». Toute personne ayant une taille de plus d'un mille de haut devra quitter la cour. Tout le monde regarda Alice. « Je n'ai pas un mille de haut, » dit-elle. « Si fait, » dit le roi. « Près de 2000, » ajouta la reine. « Eh bien, je ne sortirai pas quand même. D'ailleurs, cette règle n'est pas d'usage, vous venez de l'inventer. C'est la règle la plus ancienne qu'il y ait dans le livre, » dit le roi. Alors elle devrait porter le numéro 1. Le roi devint pâle et ferma vivement son carnet. Délibérez, dit-il au juré d'une voix faible et tremblante. Il y a d'autres dépositions à recevoir s'il plaît à votre majesté, dit le lapin se levant précipitamment. On vient de ramasser ce papier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dit la reine. Je ne l'ai pas encore ouvert, dit le lapin blanc. Mais on dirait que c'est une lettre écrite par l'accusé à quelqu'un. Cela doit être ainsi, dit le roi, à moins qu'elle ne soit écrite à personne, ce qui n'est pas ordinaire, vous comprenez. À qui est-elle adressée? Dit un des jurés. Elle n'est pas adressée du tout, dit le lapin blanc. Au fait, il n'y a rien d'écrit à l'extérieur. Il déplia le papier tout en parlant et ajouta « Ce n'est pas une lettre, après tout, c'est une pièce de verre. »« Est-ce l'écriture de l'accusé ?» demanda un autre juré. « Non, dit le lapin blanc, et c'est ce qu'il y a de plus drôle. » Les jurés eurent tous l'air fort embarrassés. « Il faut qu'il ait imité l'écriture d'un autre, dit le roi. » Les jurés reprirent l'air serein. « Pardon, votre majesté, dit le valet, ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre et on ne peut pas prouver que ce soit moi. » Il n'y a pas de signature. Si vous n'avez pas signé, dit le roi, cela ne fait qu'empirer la chose. Il faut absolument que vous ayez eu de mauvaises intentions, sans cela vous auriez signé comme un honnête homme. Là-dessus, tout le monde battit des mains. C'était la première réflexion vraiment bonne que le roi eut faite ce jour-là. Cela prouve sa culpabilité, dit la reine. « Cela ne prouve rien, dit Alice, vous ne savez même pas ce dont il s'agit. »« Lisez ces vers, dit le roi. » Le lapin blanc mit ses lunettes. « Par où commencerai-je, s'il plaît à votre majesté ? » demanda-t-il. « Commencez par le commencement, dit gravement le roi, et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Là, vous vous arrêterez. » Voici les vers que lut le lapin blanc. « On m'a dit que tu fus chez elle afin de lui pouvoir parler et qu'elle assura la cruelle que je ne savais pas nager. » Bientôt, il renvoya dire « Nous savons fort bien que c'est vrai, qu'il ne faudrait pas en médire ou gare les coups de balai. » J'en donnai trois, elle en prit une. Combien donc en recevrons-nous? Il y a là quelques lacunes, toutes revinrent deux à vous. « Si vous ou moi dans cette affaire étions par trop embarrassés, prions qu'ils nous laissent, confrères, tous deux comme il nous a trouvés. Vous les avez, j'en suis certaine, avant que de ses nerfs l'accès ne bouleversât l'inhumaine, trompés tous trois avec succès. Cachez-lui qu'elle les préfère, car ce doit être par ma foi, et sera toujours, je l'espère, un secret entre vous et moi. » Voici la pièce de conviction la plus importante que nous ayons eue jusqu'à présent, dit le roi en se frottant les mains. Ainsi que le jury maintenant. S'il y a un seul des jurés qui puisse l'expliquer, dit Alice. Elle était devenue si grande dans ces derniers instants qu'elle n'avait plus du tout peur de l'interrompre. je lui donne une pièce de 10 sous. Je ne crois pas qu'il y ait un atome de sens commun là-dedans. » Tous les jurés écrivirent sur leurs ardoises « Elle ne croit pas qu'il y ait un atome de sens commun là-dedans, mais aucun d'eux ne tenta d'expliquer la pièce de verre. « Si elle ne signifie rien, dit le roi, cela nous épargne un monde d'ennuis, vous comprenez ? Car il est inutile d'en chercher l'explication. Et cependant, je ne sais pas trop, continua-t-il en étalant la pièce de verre sur ses genoux et les regardant d'un œil, il me semble que j'y vois quelque chose après tout, que je ne savais pas nager. « Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il en se tournant vers le valet. Le valet secoua la tête tristement. « En ai-je l'air ? » dit-il. Non, certainement, il n'en avait pas l'air, étant fait tout entier de carton. « Jusqu'ici, c'est bien, » dit le roi, et il continua de marmotter tout bas. « Nous savons fort bien que c'est vrai. C'est le jury qui dit cela, bien sûr. J'en donnai 3, elle en prit une. » « Justement, c'est là ce qu'il fit des tartes, vous comprenez ?»« Mais vient ensuite, toutes revinrent 2 à vous, » dit Alice. « Tiens, mais les voici, » dit le roi d'un air de triomphe, montrant du doigt les tartes qui étaient sur la table. « Il n'y a rien de plus clair que cela. Et encore, avant que de ces nerfs l'accès. Vous n'avez jamais eu d'attaque de nerfs, je crois, mon épouse, » dit-il à la reine. « Jamais !» dit la reine d'un air furieux en jetant un encrier à la tête du lézard. Le malheureux Jacques avait cessé d'écrire sur son ardoise avec un doigt, car il s'était aperçu que cela ne faisait aucune marque. Mais il se remit bien vite à l'ouvrage en se servant de l'encre qui lui découlait le long de la figure aussi longtemps qu'il y en eut. « Non, mon épouse, vous avez trop bon air, » dit le roi, promenant son regard tout autour de la salle et souriant. Il se fit un silence de mort. « C'est un calembour !» ajouta le roi d'un ton de colère, et tout le monde se mit à rire. « Que le jury délibère !» ajouta le roi pour à peu près la 20e fois ce jour-là. « Non, non !» dit la reine, « l'arrêt d'abord, on délibérera après !»« Cela n'a pas de bon sens !» dit tout haut Alice, « quelle idée de vouloir prononcer l'arrêt d'abord !»« Taisez-vous !» dit la reine devenant pourpre de colère. « Je ne me tairai pas !» dit Alice. « Qu'on lui coupe la tête !» hurla la reine de toutes ses forces. Personne ne bougea. « On se moque bien de vous !» dit Alice. Elle avait alors atteint toute sa grandeur naturelle. « Vous n'êtes qu'un paquet de cartes » Là-dessus, tout le paquet sauta en l'air et retomba en tourbillonnant sur elle. Alice poussa un petit cri, moitié de peur, moitié de colère, et essaya de les repousser. Elle se trouva étendue sur le gazon, la tête sur les genoux de sa sœur, qui écartait doucement de sa figure les feuilles mortes tombées en voltigeant du haut des arbres. « Réveillez-vous, chère Alice !» lui dit sa sœur. « Quelle longue somme vous venez de faire !»« Oh, j'ai fait un si drôle de rêve !» dit Alice. Et elle raconta à sa sœur, autant qu'elle put s'en souvenir, toutes les étranges aventures que vous venez de lire. Et quand elle eut fini son récit, sa sœur lui dit en l'embrassant « Certes, c'est un bien drôle de rêve, mais maintenant, courez à la maison prendre le thé. Il se fait tard. » Alice se leva donc et s'éloigna en courant, pensant le long du chemin et avec raison quel rêve merveilleux elle venait de faire. Mais sa sœur demeura assise tranquillement, tout comme elle l'avait laissé, la tête appuyée sur la main, contemplant le coucher du soleil et pensant à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures. Si bien qu'elle aussi se mit à rêver en quelque sorte. Et voici son rêve. D'abord, elle rêva de la petite Alice personnellement. Les petites mains de l'enfant étaient encore jointes sur ses genoux et ses yeux vifs et brillants plongeaient leur regard dans les siens. Elle entendait jusqu'au son de sa voix. Elle voyait ce singulier petit mouvement de tête par lequel elle rejetait en arrière les cheveux vagabonds qui sans cesse lui revenaient dans les yeux. Et comme elle écoutait ou paraissait écouter, tout s'anima autour d'elle et se peupla des étranges créatures du rêve de sa jeune sœur. Les longues herbes bruissaient à ses pieds sous les pas précipités du lapin blanc, la souris effrayée faisait clapoter l'eau en traversant la mare voisine, Elle entendait le bruit des tasses, tandis que le lièvre et ses amis prenaient leur repas qui ne finissait jamais, et la voix perçante de la reine envoyant à la mort ses malheureux invités. Une fois encore, l'enfant porc éternuait sur les genoux de la duchesse, tandis que les assiettes et les plats se brisaient autour de lui. Une fois encore, la voix criarde du griffon, le grincement du crayon d'ardoise du lézard et les cris étouffés des cochons d'Inde mis dans le sac par ordre de la cour remplissaient les airs en se mêlant aux sanglots que poussait au loin la malheureuse fausse tortue. C'est ainsi qu'elle demeura assise, les yeux fermés, et se croyant presque dans le pays des merveilles, bien qu'elle sût qu'elle n'avait qu'à rouvrir les yeux pour que tout fût changé en une triste réalité. Les herbes ne bruiraient plus alors que sous le souffle du vent, et l'eau de la mare ne murmurerait plus qu'au balancement des roseaux. Le bruit des tasses deviendrait le tintement des clochettes au cou des moutons, et elle reconnaîtrait les cris aigus de la reine dans la voix perçante du petit berger, l'éternuement du bébé, le cri du griffon et tous les autres bruits étranges ne seraient plus, elle le savait bien, que les clameurs confuses d'une cour de ferme, tandis que le beuglement des bestiaux dans le lointain remplacerait les lourds sanglots de la fausse tortue. Enfin, elle se représenta cette même petite sœur dans l'avenir, devenue elle aussi une grande personne. Elle se la représenta, conservant, jusque dans l'âge mûr, le cœur simple et aimant de son enfance, et réunissant autour d'elle d'autres petits-enfants, dont elle ferait briller les yeux vifs et curieux, au récit de bien des aventures étranges, et peut-être même en leur contant le songe du pays des merveilles du temps jadis. Elle la voyait partager leurs petits chagrins et trouver plaisir à leurs innocentes joies, se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été. Fin du chapitre 12. Fin de Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll. Traduit par Henri Bué, 1843-1929.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.